Alors j'aimerais qu'on continue le livre des Actes cette semaine. Si vous voulez prendre Actes 11, nous allons lire les versets 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. » Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Car les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison un ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Donc, on a vu dans un précédent message des Actes comment Dieu a poussé l'apôtre Pierre à annoncer l'évangile aux païens. Mais ici, l'apôtre Pierre doit maintenant convaincre ses frères de Judée, les Juifs, de la même chose, que Dieu voulait aussi sauver les païens. Parce qu'il y avait inimitié, le contraire de l'amitié entre les païens et les Juifs, donc il n'y avait pas de contact entre eux. Et l'apparition de cette nappe remplie d'animaux qui est descendue devant lui, des animaux qui étaient impurs selon la loi juive, et cet ordre « Pierre tue et mange » nous enseigne ce qui était dans le cœur des Juifs. Ce signe de la nappe qui descendait, c'était pour convaincre les Juifs qu'il fallait maintenant cesser de considérer comme impurs les païens, les autres nations, qu'il fallait maintenant plutôt être des témoins auprès d'eux, et notamment auprès de Corneille et de sa famille. Et donc Pierre a été un témoin. Il dit, versets 15 et 17, on peut les relire, 15 à 17, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu ? Et Dieu était en train de faire un miracle là pour vraiment changer et convaincre le peuple d'Israël que l'évangile maintenant, c'était pour tout le monde, c'était pour toutes les nations, que tous avaient le même droit au salut. Et puis on lit ce verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. On imagine dans quel état ils étaient à l'idée que Pierre avait mangé avec des païens, qu'il était rentré sous le toit des païens. Et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Et à la lecture de ce verset, nous comprenons que les Juifs pensaient que les païens n'avaient pas le droit à la repentance. Ils ne pouvaient pas donc se repentir, ils ne pouvaient pas avoir la vie éternelle, ils ne pouvaient pas être sauvés. Donc les Juifs pensaient que le salut n'était que pour eux qui étaient les élus, les choisis, et personne d'autre, à part eux, ne pouvait être sauvé. Mais on voit, la réalité était tout autre. Tout à l'heure, quelqu'un priait, voilà, que c'est le Dieu de toutes les nations, c'est le Dieu de tous les hommes. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin le salut des païens, donc des non-juifs, dans l'Ancien Testament. Et on va regarder, eh bien, comment ils étaient sauvés. Chaque exemple que nous allons voir présente un aspect du salut que les païens pouvaient aussi obtenir déjà dans l'Ancien Testament. Si on ne regarde que ce que pensaient et disaient les Juifs des Actes, il semble qu'il n'y avait pas de salut pour les païens, pas de repentance, pas de vie pour eux. Est-ce que le salut n'était que pour les Juifs? Alors on voit certes qu'Israël était dans une position de privilège, puisque Dieu les avait choisis, ils étaient son peuple, et donc Dieu leur a accordé la connaissance, la révélation de sa personne. Et le fait que Dieu ait choisi ce peuple d'Israël, c'était une bénédiction, c'était un peuple qui était béni. Mais le but de Dieu n'était pas de choisir un peuple et de rejeter tous les autres peuples de la terre. Ce n'était pas ça. Lorsque l'Éternel a choisi Israël, lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte, le but, c'était que toutes les autres nations voient qu'Israël était le peuple de Dieu et que Dieu, Yahvé, l'Éternel, c'était le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et toutes les plaies de l'Égypte étaient un moyen de marquer toute l'humanité de l'époque et dire « Regardez, je suis Dieu et c'est mon peuple, Israël est mon peuple, je suis le Tout-Puissant. » Plusieurs siècles plus tard, eh bien, on en parlait encore dans les nations. Tous les peuples environnants se souvenaient de ce que Dieu avait fait. Regardez 1 Samuel 4, 7 à 8. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Alors, la bénédiction de Dieu sur Israël et les jugements portés contre l'Égypte étaient encore connus dans tous les pays alentour, bien longtemps après leur sortie d'Égypte. On s'en souvenait, on le racontait, on en parlait dans les chroniques de l'époque. Bien sûr, la vérité était quelque peu déformée. Ici, ils disent les dieux qui ont frappé les Égyptiens, les plaies dans le désert. On voit qu'il y avait une déformation. Mais ils savaient que les dieux, ou le Dieu plutôt, le Dieu d'Israël, était un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu qui s'était révélé le jour où Israël était sorti de l'Égypte. Donc cette connaissance du Dieu des Juifs, elle était réelle et elle était répandue partout. On en voit un effet un demi-siècle après la sortie d'Égypte. Israël est alors en train d'entrer dans le pays promis, Canaan. Ils sont aux portes de la ville païenne de Jéricho. Ils envoient des espions alors pour entrer dans Jéricho, et les espions vont venir se réfugier chez une femme, Rahab. Et j'aimerais que vous preniez Josué 2, et on va lire les versets 8 à 11. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et c'est très touchant ici de voir la réflexion de cette païenne qui n'avait aucune connaissance du Dieu d'Israël, à part par les oui-dire, par ce que l'on racontait du peuple d'Israël. Elle avait entendu les récits qui, à l'époque, vous savez, ça parcourait des kilomètres et des kilomètres au travers des caravanes, des marchands, et on racontait, vous savez, ce qui s'est passé là-bas, et voilà. Et c'est comme ça que, bien, c'était parvenu jusqu'à Jéricho. Rahab n'avait jamais lu la parole de Dieu. Elle n'avait pas de Bible. Elle n'avait pas de Bible, mais elle savait qu'il y avait un Dieu, le Dieu d'Israël. Et on voit le témoignage de ce Dieu était déjà bien présent en Canaan. Et elle dit que beaucoup étaient dans la crainte devant ce Dieu d'Israël, craignaient le jugement. Et donc Dieu nous révèle par Rahab qu'un païen ou une païenne, eh bien, recevait le témoignage du Dieu d'Israël. Un païen pouvait être sauvé en croyant dans le Dieu d'Israël. Et certains, eh bien, sont venus se réfugier sous ses ailes. Pas tous, on voit, beaucoup sont morts et n'ont pas accepté, mais plusieurs sont venus se réfugier sous ses ailes. Rahab va alors demander aux espions de lui jurer de ne pas faire périr sa famille lorsque Israël viendrait faire la conquête de Jéricho. Et on peut regarder ensemble ce qu'ils ont répondu. Regardez Josué 2, on va lire les versets 15 à 21. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. » Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Et au travers de ce cordon de fil donc cramoisi, donc un cordon fait de fil rouge, on a là une image du sang de Jésus-Christ. Et une chose qu'il faut d'abord relever, c'est que depuis la nuit des temps, depuis la chute de l'homme, le salut a toujours été sur la base du sang versé. La Bible dit « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Si donc le sang ne coulait pas, Dieu ne pardonnait pas, il ne pouvait pas pardonner. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs ont fait tous ces sacrifices d'agneaux, de brebis, ils ont fait couler le sang coulait et Dieu ne punissait pas les transgressions. Mais si les Juifs faisaient tous ces sacrifices, ils n'avaient pas conscience du pourquoi ils faisaient les sacrifices. Ils ne savaient pas tout, ils ne comprenaient pas tout, simplement ils obéissaient à l'ordre qu'ils avaient reçu dans la loi, que ceux qui voulaient être pardonnés, eh bien, fassent un sacrifice devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils comprenaient de la personne de Jésus-Christ? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Puisque Christ n'était pas encore venu en chair, il ne s'était pas encore présenté à eux. Ils savaient que le Messie allait venir. Ils entrevoyaient des choses concernant le Messie, mais ils ne comprenaient pas tout du Messie. Le fait que le Fils de Dieu allait venir, allait mourir pour les péchés des hommes, ça, ils ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'était quelque chose qu'ils ignoraient. Posons-nous la question, qu'est-ce que Rahab savait de Jésus-Christ? Rien, absolument rien. Qu'est-ce qu'elle comprenait au sang versé? Rien. Absolument rien. Mais pourtant, déjà, le salut de Rahab reposait sur le sang de Jésus-Christ. Si Rahab pouvait être sauvée, c'était sur la base du sang que Jésus-Christ allait verser plusieurs siècles plus tard. Et ce cordon de fil rouge était là pour témoigner, pour nous le rappeler. Les païens qui croyaient et qui craignaient le Dieu d'Israël étaient sauvés d'une manière anticipée par la croix de Jésus-Christ, par le sang versé de Jésus-Christ. Regardez Romains 3, et on va lire ensemble les versets 23 à 26. Il est dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, qui rend propice, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Et quand Jésus est mort sur la croix, quand son sang a coulé, son sang a fait l'expiation des péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ça signifie que les croyants de l'Ancien Testament, qu'ils soient juifs ou païens, comme Rahab, ont été réellement pardonnés, réellement, le jour où Jésus-Christ a fait l'expiation et il a versé son sang. Jésus, quand il est mort, était en train de mourir pour tous les croyants du passé, du présent et du futur. Donc les païens pouvaient aussi accéder à ce salut, c'était par la foi, et même s'ils n'en avaient pas la compréhension, c'était sur la base future du sacrifice de Jésus-Christ. Prenons un autre exemple de quelqu'un qui a été sauvé dans l'Ancien Testament, qui était païen. Un peu plus d'un siècle après la sortie d'Égypte, on trouve une femme qui va se retrouver en contact avec les Juifs. C'est Ruth, donc Moabite, c'est partie du pays de Moab. Et dans l'histoire de Ruth, on voit clairement une femme qui va faire le choix du Dieu d'Israël. Elle est dans son pays en Moab, elle rencontre un juif avec lequel elle se marie, et son mari décède peu de temps plus tard. Et elle se retrouve dans cette famille juive avec sa belle-mère, donc Naomi. Et elle avait le choix, une fois que son mari était décédé, soit elle retournait vers ses dieux de Moab, soit elle suivait Naomi et elle retournait, ou elle allait plutôt en Israël. Et Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, donc Ruth lui dit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et ici, c'est vraiment le choix d'une païenne de croire, de suivre le Dieu d'Israël. Ruth avait le choix. Sa belle-mère l'a même exhortée. Elle lui a dit, « Vois ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Naomi l'a poussée, mais retourne. Et elle a dit, « Non, non, non. Ton Dieu sera mon Dieu. Je fais le choix de te suivre. Je fais le choix du Dieu d'Israël. » Et on a ici une belle image de la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion ? C'est se détourner de l'erreur, du mensonge, des faux dieux, des idoles, et de se tourner vers le Dieu d'Israël, vers Jésus-Christ. Les Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur a dit, « Car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles et en vous tournant pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et la conversion, c'est un choix qui nous conduit à se détourner du mensonge et à se tourner vers le Dieu d'Israël. Et c'est ce que Ruth a fait. Et Naomi l'a accueilli. Et il y a un verset qui est très touchant dans le Deutéronome. Je vous le lis, il est très court. C'est Deutéronome 10, verset 19. Il dit, donc c'est Dieu qui parle à Israël. et qui dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Vous aimerez l'étranger, c'est très fort, je trouve. Vous aimerez les païens, vous les aimerez. Vous aimerez l'étranger, vous serez accueillant envers les non-juifs. Et c'est ce qu'a fait Naomi et c'est ce qu'a fait Boaz vis-à-vis de Ruth. Un autre exemple. Un siècle plus tard, nous sommes dans l'époque des rois et c'est maintenant le roi de Syrie qui possède un chef de son armée qui s'appelle Naaman. Naaman est couvert par la lèpre, mais dans son foyer, il va être en contact avec une juive puisqu'il avait une servante, une jeune fille qui venait d'Israël. Et la jeune fille va apporter en quelque sorte le salut dans cette maison païenne, puisqu'elle va dire « Oh, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Donc ça, c'est une parole que Naaman va recevoir, qui va travailler son cœur et va demander à son roi s'il peut aller en Israël. Et j'aimerais qu'on le prenne ensemble. Regardez, 2 Rois 5, 9 à 16. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Et on voit ici l'impact que va avoir un prophète, Élisée, sur la vie d'un païen. Et on apprend un autre détail sur la manière d'être sauvé par un païen, pour un païen dans l'Ancien Testament. Naaman était couvert de la lèpre et on peut dire son salut, entre guillemets, ne tenait que sur le bout des lèvres du prophète. Élisée lui fit dire, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et dans cette parole, on voit la simplicité du salut. Sa délivrance, elle ne reposait que sur une chose, la foi. La foi. Le prophète juif lui dit, « Vas-y, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. » Est-ce que Naaman va le croire? Sa première réaction, c'est mépris. Comment ça? Il était venu avec toute sa pompe, avec son char, avec tout le monde, et il s'attendait à recevoir les égards. Hein. Et il n'arrivait pas à croire qu'il suffisait de descendre dans l'eau pour retrouver une peau qui était pure. Et on peut dire que c'est bien là le problème aujourd'hui de beaucoup de gens. Ils ne veulent pas croire à la simplicité de l'Évangile, à la simplicité du salut que Dieu offre. Mais même si c'est très simple, et c'est simple, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui compte. Si Dieu le dit, alors c'est réel et Dieu offre le salut d'une manière qui est simple. Les païens dans l'Ancien Testament devaient avoir foi, tout comme les Juifs d'alors. C'est la foi qui sauvait, c'est ça qui apportait la délivrance. Et Naaman, le Syrien, va croire Il va faire confiance et il va goûter à la délivrance, à la guérison. On peut relire le verset 15, regardez. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, et c'est très fort, il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et ici, c'est un païen qui se tourne franchement vers le Dieu d'Israël. Il avait des dieux. Et il rejette ces dieux et dit, « Non, il n'y a pas de Dieu à part ici, en Israël. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel, c'est Yahvé. » Et on voit la simplicité ici, il se tourne vers lui. Et Dieu sauvait les païens déjà par la foi dans le Dieu d'Israël, Yahvé. Et si c'est par la foi, ce n'est point par les œuvres. C'était déjà par la foi dans l'Ancien Testament. Comme pour nous aujourd'hui, la seule chose qui change, c'est que l'objet de la foi a changé. Il n'a pas cru en Jésus-Christ, le Messie qui n'avait pas encore été révélé, mais il croyait en Yahvé, le Dieu d'Israël. Et c'est ça qui lui a amené le salut. C'était la foi en Yahvé. Aujourd'hui, nous, c'est la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu. Un dernier exemple, c'est celui qui se trouve dans le prophète Jonas. Jonas est juif, il est prophète, et il reçoit un ordre de la part de l'Éternel. Regardez Jonas 1, et on va lire les versets 1 et 2. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc Jonas vivait à l'époque des rois, au moment du règne de Roboam. Il est prophète missionnaire, puisqu'il doit aller vers une nation païenne et parler à une nation païenne. Il doit aller leur prêcher la repentance. Et on voit par cette histoire qu'il y avait toujours la nécessité pour les païens d'être en contact avec les juifs. C'était par les juifs qu'ils obtenaient le salut. D'ailleurs, il est écrit « Le salut vient des juifs ». Donc, il fallait être en contact avec les juifs. On connaît l'histoire de Jonas. Le verset 3 dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Et si Israël devait être une nation phare, une nation qui brille de la connaissance du vrai Dieu pour le salut de tous, Israël, au contraire, s'est plutôt renfermé sur eux-mêmes. Jonas ne voulait pas aller prêcher la repentance aux païens. Hors de question, hors de question. Pourquoi ? Parce qu'il risquait de se repentir et de trouver la grâce du Dieu d'Israël. Incroyable ! Incroyable. Pour lui, ce n'était pas possible. Parce que le salut, c'était pour les Juifs et que pour les Juifs, pour lui. Et on voit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et l'histoire, donc, l'Éternel, par l'histoire du poisson, va contraindre Jonas à faire ce qu'il lui demandait. Jonas 3, on va lire maintenant versets 1 à 4. Après cela, donc, il a vécu toute cette épreuve du poisson. Et puis, chapitre 3, verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Entre parenthèses, c'est quand même intéressant de voir que cette ville de Ninive, on disait que c'était un mythe de la parole de Dieu, voilà, un conte, une fable. Et puis aujourd'hui, vous regardez sur Internet, vous voyez tous les vestiges de la ville de Ninive, toute l'archéologie qui a découvert, qui a mis au jour, et c'est voilà, la parole de Dieu a toujours raison. Et le message de Jonas, il est très concis. C'est un message qui proclame le jugement de Yahvé. Yahvé va juger votre ville. Mais ce message est parvenu directement au cœur des Ninivites. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissaient le Dieu d'Israël, eux aussi. Ils le connaissaient. Ils l'avaient repoussé, ils n'en avaient que faire. Mais ils le connaissaient. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à craindre et à se dire, mais si le Dieu qui a fait ça en Égypte, il vient nous frapper de la même manière, mais on va tous périr. On va tous périr. Alors, eh bien, un jour de marche. La Bible dit qu'il fallait 3 jours de marche pour bien déambuler et parvenir jusqu'à l'autre extrémité. Un jour de marche, ça a suffi pour que la rumeur eh bien, se propage, que tout le monde commence à le savoir. Le roi l'entend et il proclame un jeûne pour toute la ville, pour tous les animaux. Verset 9. « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Et on voit ici encore la foi, la crainte dans le Dieu d'Israël. Verset 10, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » Et on peut souligner ici la manière d'agir du Seigneur. On reproche souvent, personne qui lise la Bible, hein, quelqu'un le partageait encore cette semaine, je crois, me le disait, que quand certains ouvrent la Bible comme ça, ils voient Israël, ils voient les conquêtes sanglantes, ils disent « Oh, ce Dieu-là, hein, non, non, il est terrible, hein, ce Dieu-là, non, non, on le refuse. » Mais il faut bien comprendre qu'Israël était un instrument entre les mains de Dieu pour châtier, pour punir les nations qui faisaient des choses horribles, qui faisaient des sacrifices d'enfants, qui offraient les enfants à Moloch, une idole qui était brûlée, chauffée au fer rouge. Donc, Dieu avait pris Israël et châtié les nations qui étaient coupables, qui étaient dans le péché. Et ça, c'est important de le comprendre. Et on voit ici que Dieu change vis-à-vis d'une nation qui, elle, est repentante. Ils étaient coupables, mais ils vont se repentir. Bien, Dieu éloigne le jugement. Je vous lis un passage dans Ésaïe 57, 15 à 16. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Et Dieu est sévère avec le mal. Parce qu'il est saint, il ne peut pas tolérer le péché sans rien faire. Sa justice appelle à s'exercer. Alors, eh bien, il l'exerçait en jugeant, en condamnant, en frappant le pécheur par la mort. Mais ça, c'est qu'une facette de Dieu. L'autre facette, c'est que Dieu aime. Dieu aime. Il est dit en Ézéchiel, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ?» dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Donc Dieu désirait un changement de comportement chez les païens et une foi en sa personne, afin qu'il puisse trouver aussi le salut. Et Israël était témoin de Yahvé, devait témoigner de Yahvé, de la personne de Dieu. Mais Israël n'a pas toujours agi de la bonne manière et Jonas, ici, en est un exemple. On lit après en Jonas 4, versets 1 et 2. « Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que Dieu, en choisissant Israël, rejetait toutes les nations ? Est-ce qu'Israël était les seuls élus qui avaient droit au salut ? Non. Parce que Dieu est compatissant, lent à la colère, miséricordieux, riche en bonté. Il se repent du mal et il accepte le cœur qui est contrit, qui est humilié. Celui qui dit « j'ai rien à faire de toi, je fais ce que je veux », Dieu le laisse, fais ce que tu veux. Mais celui qui plie le genou et qui dit « oh, aie pitié de moi », alors Dieu l'accueille. Dieu l'accueille, quoi qu'il ait fait, quels que soient ses péchés, il le lave par le sang de la croix. Donc il y avait un salut possible pour un païen qui vivait avant Jésus-Christ. Son salut, finalement, c'est toujours par le biais des Juifs qui, eux, répandaient l'odeur de Yahvé. Ils étaient des instruments de l'Éternel. Il y avait donc une voie de salut possible avant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort uniquement pour Israël. Il est mort premièrement pour Israël, mais il est mort aussi pour chaque païen, pour tous les païens. Dieu n'a pas tant aimé les Juifs, mais il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait choisi Israël pour rayonner dans les nations, au milieu des nations. Mais on peut dire que finalement l'orgueil d'Israël, son cœur pécheur, l'a perdu. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque leur Messie est venu, eh bien ils ne l'ont pas reconnu. Leur cœur était trop dur. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils étaient ancrés dans leur propre justice, dans la pratique de toutes leurs traditions qu'ils avaient ajoutées à la parole de Dieu, et ils n'ont pas accueilli le Messie comme ils l'auraient dû. Si bien que la Bible dit qu'ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru. Et Dieu s'est tourné vers les païens pour en faire son peuple, l'Église de Jésus-Christ, qui est un mélange de juifs et de païens, mais proportionnellement, beaucoup plus de païens sont dans l'Église. Et c'est maintenant la responsabilité de l'Église d'aller vers l'autre. C'est à l'Église maintenant de briller, de rayonner, de répandre l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Pour les païens, mais pour le juif aussi. On pourrait dire pour le juif premièrement. Apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Autrefois, les hommes pouvaient connaître Dieu, être sauvés par le biais des juifs. Qui répandait le salut. Et maintenant, les hommes peuvent être sauvés par le biais de l'Église qui doit répandre le salut. Donc c'est à nous maintenant de parler, de témoigner, de partager Jésus-Christ, sauveur du monde. Et on peut dire aujourd'hui ce que Paul a dit et prêché à Athènes, et on peut conclure avec ce verset, c'est dans Actes 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a eu des temps d'ignorance, c'est vrai, parce que la connaissance de Jésus-Christ n'avait pas encore été révélée. Le salut en Christ était inconnu, mais le salut n'en était pas moins possible par le Dieu des Juifs, Yahvé. Et même si les païens étaient autrefois sans Dieu et sans espérance dans le monde, c'est ce que Paul dit, ils pouvaient néanmoins quand même venir à Dieu par le Dieu d'Israël. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans des temps d'ignorance. La pleine connaissance du salut en Jésus-Christ nous a été annoncée, nous a été proclamée, et elle se répand sur toute la terre aujourd'hui. Il faut se repentir Parce que Jésus-Christ revient et il va juger le monde. Et il en a donné une preuve certaine. Il est ressuscité d'entre les morts. Il suffit de croire en lui. Il suffit de placer sa confiance en lui et on est sauvé. C'est aussi simple que de se tremper 7 fois dans une rivière. Mais il y a un choix à faire. Il faut se détourner de ses idoles, de son péché, de sa débauche. Il faut se détourner et se tourner, faire le choix du Dieu d'Israël, de Jésus-Christ. Il faut accrocher un cordon de fil rouge à sa vie, c'est-à-dire se placer sous le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Quand on le fait, alors eh bien, on est sauvé, on est pardonné, on devient enfant de Dieu. On va s'incliner dans la prière.